Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue pour travailler ensemble cet après-midi sur la question de la contractualisation dans le cadre des partenariats de recherche public-privé. C'est un sujet très important. Le nombre de personnes présentes et le nombre de retours que nous avons eus suite à la publication de la note en témoignent. Et d'ailleurs, M. Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, nous avait promis d'être là, mais son agenda le cœur requiert ailleurs, et devrait arriver son conseiller innovation, M. Marc Révol, que je remercie par avance. Alors, pour ouvrir ces travaux, je voudrais d'abord vous en préciser le contexte. Fin 2023, une dizaine d'entreprises, bénéficiaires de chiffres plutôt en nombre, donc plutôt des grandes ou des moyennes, viennent voir Pascal Giat, le chef du service CIF, que vous connaissez, à mon avis, tous, et moi-même, et nous disent en substance: la contractualisation devient de plus en plus difficile, les échanges sont de plus en plus rugueux. Clarisse, il faut faire quelque chose. Alors là, je ne suis pas sûre de pouvoir faire quelque chose de manière immédiate, mais ce que nous savons faire, c'est prendre la tâche des partenaires, des parties prenantes, et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Alors c'est ainsi que j'ai entrepris plus de 60 interviews bilatérales. Dans le rapport qu'on vous a remis, vous avez la liste des personnes qui ont accepté d'être mentionnées, mais il y a d'autres personnes qui ont préféré s'exprimer de manière plus anonyme pour pouvoir parler en toute liberté. Et je remercie donc l'ensemble de ces personnes, environ 60, qui ont contribué à ces réflexions tout au long de ce voyage d'un an à peu près. Et donc merci encore à elles. Alors, c'est un travail qui rassemble un éventail large de situations. Il faut le prendre comme un peu de journalisme. C'est un état des lieux, rugosité ou pas. Cela n'obère en rien le fait que nombre de collaborations se passent bien. Ce n'est pas un rapport exhaustif sur les relations publiques-privées. Je le dis parce que c'est des remarques qui m'ont été faites. Mais par contre, cela met à jour de vraies difficultés qu'il faut quand même prendre en compte et ne pas se bercer d'illusions sur l'organisation de la recherche contractuelle en France en ce moment. Alors, pour illustrer mon propos, je voudrais vous raconter deux anecdotes qui m'ont perturbée et qui sont assez représentatives, et j'en aurai encore d'autres, notamment une ce matin, qui me perturbent un peu et j'espère vont vous bouleverser un peu vous aussi. La première: un jour, une grande entreprise demande rendez-vous avec moi, parce qu'on est souvent médiateur dans le cadre des chiffres et des relations contractuelles avec les labos, et elle m'explique toutes les difficultés que lui cause sa relation avec le laboratoire académique. Effectivement, ça a l'air difficile, compliqué, et à ce point, j'ose lui dire « mais quittez-le !» D'autant que je comprends qu'ils arrivaient quand même à un cycle de contractualisation. Et là, elle me dit quelque chose qui est extrêmement fondateur dans nos réflexions. Elle me dit « oui, mais on a besoin d'eux ». Alors là, le dialogue se transforme parce que le laboratoire, on prend conscience ensemble que le laboratoire académique est un asset stratégique pour l'entreprise. Et que donc on va plus s'instaurer ou s'installer dans un rapport de force, mais qu'on va comprendre les bénéfices respectifs de l'un et de l'autre dans cette coopération, tout en ayant bien conscience que les bénéfices ne sont pas les mêmes. Et que dans coopération, il va falloir admettre la position de l'autre. Deuxième anecdote qui se finit moins bien. Deux start-up, totalement différentes que je ne vois pas en même temps, mais elles ont un tel parallélisme que je veux vous en parler. Les deux patrons sont à la tête de Game Changer qui, si on s'occupe bien de ces start-up, vont vraiment révolutionner leur secteur d'activité. Ce qu'ils font est totalement bluffant et ils sont bien soutenus financièrement. Ils ont des grosses équipes de chercheurs privés qu'ils ont recrutés. Tout va bien de ce côté-là. Et les deux me disent: la recherche publique, même pas en rêve. Je ne veux pas avoir affaire à la recherche académique. Et là, je pars totalement déprimée. Et puis, c'est non de chez non. Donc, ce qu'il faut qu'on se dise en ce moment, c'est qu'il ne faut pas qu'on sous-estime le nombre non négligeable d'entreprises qui n'a pas le temps, pas la culture, pas l'envie, pas le recul de mettre en œuvre une profondeur, une relation avec un milieu qu'elle ne connaisse pas et qu'elle, quelque part, ne veut pas prendre le temps de découvrir. La plupart de ces patrons ne sont pas issus du monde académique, ce sont des vrais patrons, certains le sont, mais dans tous les cas, n'en gardent pas un souvenir ou n'en acquièrent pas une estime qui fassent qu'elles aient envie, ces entreprises, de travailler avec le milieu académique. Et ça, c'est très grave. Donc, à ce niveau de mon discours, je trouve que nous faisons face à un système à deux équations difficiles, et pas incompatibles, mais qu'il va falloir résoudre quand même. D'abord, et je fais référence au rapport Draghi, par exemple, mais aussi aux travaux du comité Richelieu, on sait qu'en France, on a à peu près 50% des entreprises technologiques qui devraient faire de la recherche qui n'en font pas. Et dans les 50 autres pourcents, nous en avons à peu près 25% qui font de la recherche tout azimut. Alors, je ne parle même pas des grandes, je parle surtout des PME, des ETI. Et l'autre 50%, donc on est à 25 là, enfin l'autre moitié, donc les autres 25%, ils en font éventuellement. Et probablement plus en interne ou avec des partenaires privés qu'avec des partenaires publics. Or, on sait, et je rappelle Draghi, mais je vous renvoie aussi à une très très bonne tribune de M. Bismuth dans les Échos d'hier sur la croissance des PME avec les R&D. Merci Franck, oui je te vois. Oui, lisez-la. On sait que notre futur repose beaucoup sur des entreprises qui vont croître grâce à la R&D. Et d'ailleurs à la NRT, très souvent, on se réclame d'entreprises qui ont démarré avec une cifre et qui ont multiplié par 10, par 20, je regarde Renaud, tu vois auquel je pense, grâce à la mise en place d'une structuration réelle en tant que stratégie de leur R&D. Donc on a là un problème, Houston. Mais on a un autre problème de mon point de vue, c'est que depuis 20 ans, donc je mets à peu près 2004-2005, quand on commence à prendre conscience qu'il va falloir réformer le système français de recherche et d'innovation, terme dont on va me rappeler qu'il est d'ailleurs, qu'il est né à la NRT, on a produit beaucoup de dispositifs, on a beaucoup transformé, on a déployé des dispositifs qui se veulent dynamiques pour la recherche partenariale. Et quand on regarde, alors je vais penser dans un autre ouvrage que vous avez sûrement eu aussi sur l'autonomie des universités, on mentionne l'Open Innovation Scoreboard qui manifeste au prisme du nombre de publications publiques privées que en fait la France est quand même dans le peloton de queue si on regarde nos travaux par cet indicateur-là. Or, donc, et même par rapport aux chiffres, si on est tout à fait honnête, on a une croissance des chiffres, et je salue le ministère qui nous alloue plus de 100 chiffres, c'est-à-dire qui suit la rampe de la LPR pour 2025, et en ces périodes de disette, je crois qu'on peut vraiment le remercier, mais tout de même, les chiffres ont une croissance que linéaire, on devrait être exponentiel. C'est pas à l'échelle, c'est pas à la hauteur. Donc on a un souci de performance de notre recherche partenariale. Alors, j'arrive à la dernière partie de mon intervention, c'est quelles sont les solutions, puisque de mon point de vue, c'est pas une histoire d'argent. D'ailleurs, on voit, et ça j'ai peut-être omis de le dire, mais on voit que les établissements académiques qui performent, ce sont souvent ceux qui sont les plus chers, mais qui donnent un service très englobant, qui sont dans un accueil très professionnel. Des entreprises. Donc c'est, et d'ailleurs, les entreprises me disent, c'est pas un problème d'argent. Et même à la NRT, on sait bien que si on vous donne ce dont vous avez besoin, vous êtes capable de payer. Quand on ne vous donne pas tout à fait ce dont vous avez besoin, ou pas du tout, évidemment, là, c'est très facile pour vous de vous désengager. Donc, c'est un package qui n'est pas une question d'argent, qui n'est pas forcément une question aujourd'hui de dispositifs. Des dispositifs, on en a pléthore. Je salue l'arrivée des PUI et j'espère qu'ils seront performants. Le monde académique va se regrouper dans un bassin d'emploi, un bassin géographique, un bassin, je dirais, d'influence avec le monde socio-économique. Mais il va falloir être vigilant. Parce que, de mon point de vue, et c'est ce que vous m'avez dit collectivement, le public et le privé, je pense qu'on a deux écueils à régler que j'appelle la stratégie et le management. C'est-à-dire qu'on a des bateaux, on a des bons capitaines, mais on n'a pas de plan de navigation. Pas suffisamment. Donc, je pose la question aujourd'hui, quelle est la stratégie du monde académique vis-à-vis de la coopération de recherche avec le privé ? Au niveau de l'établissement, au niveau du laboratoire, au niveau national, au niveau local, comment le président d'université, le directeur d'un organisme de recherche décline sa stratégie de façon à ce que ses équipes de recherche, en conscience, savent dans quelle stratégie, avec quels moyens, en formant une équipe unie, elles vont accueillir la recherche partenariale. Je pense qu'on a vraiment besoin de ça, une stratégie connue de tout le monde dans la boutique et mise en œuvre avec les moyens qui vont bien. Et ce n'est pas une histoire de moyens, ça peut être une histoire de statut, mais rien n'empêche dans un même labo d'avoir des gens qui font que de la recherche dite fondamentale et d'autres qui vont progresser sur une chaîne TRL qui s'en va, qui va vers des montants ou des valeurs plus élevées. Et d'ailleurs, souvent, les meilleurs chercheurs se baladent au cours de leur carrière sur cette chaîne TRL, font des boucles. Donc, rien n'est figé. Et je pense que dans la tête d'un chercheur, l'idée de voir valoriser ses travaux de recherche vers le monde de la production, de l'innovation, de la transformation, c'est plutôt valeureux que de garder tout ça pour soi sur une étagère. Voilà. Mais je vais poser la même question au monde industriel. Quelle est votre stratégie, vous, les entreprises, vis-à-vis de la coopération du monde académique? Si vous l'abordez comme un bon coup, un moment où vous allez choper de l'info, vous allez régler un petit problème, c'est totalement vain, parce que vous aussi, au sein de vos entreprises, vous êtes dans des logiques de rapport de force. Et si vous voulez convaincre vos N plus I de l'intérêt de faire de la recherche, c'est certainement pas en occultant la stratégie générale et la déclinaison de cette stratégie dans une logique managériale. Donc je conclue en insistant sur la recherche partenariale et sa genèse doit, de mon point de vue, dans cette relation de dualité, monter en maturité de conscience de la part des partenaires. C'est une véritable culture partenariale au sein des institutions académiques qu'il nous faut cultiver, de façon à ce que, comme je l'ai dit, chacun soit investi en conscience de cette stratégie et les moyens de la décliner. Et ça vaut pour le milieu académique comme pour l'entreprise. Le laboratoire, de notre point de vue, doit se sentir co-responsable de la réussite de l'entreprise. C'est un état d'esprit qui doit se développer dans la Maison France. Et réciproquement, les universités et les organismes doivent être considérés comme des partenaires stratégiques par les entreprises privées. Ce sont des partenaires économiques avertis. Les entreprises ont besoin de ces partenaires stratégiques parce qu'ils détiennent des connaissances, des compétences, des méthodes et une créativité qu'elles n'ont pas en leur sein. Je conclus en rappelant que derrière la performance des relations de recherche publique-privée sont en jeu la capacité de faire de la recherche de pointe, de l'intégrer dans nos productions, de renforcer notre compétitivité, mais aussi de solidifier notre modèle social et notre place dans le monde. Place au débat.